peut-être partir de ce mot de direction, parce qu'au fond, c'est quand même le tu l'as employé plusieurs fois, c'est le terme central, quoi. Diriger un acteur. Il y a 30 ans, je me souviens, c'était... Ah, il sait diriger les acteurs. C'était... très noble, au fond. C'était une espèce de garantie que le metteur en scène faisait bien son travail de metteur en scène, quoi. Mais il y avait déjà des metteurs en scène qui ne dirigeaient pas. C'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène qui, effectivement, misent sur l'acteur, sur sa liberté, et surtout sur sa part de création. Parce que la liberté, c'est un concept... Là, on est dans l'endroit du faire, quoi. Et qui, alors, l'exemple le plus clair, c'est Mouchkine. Chaque fois que je vais vous voir, je vous parle de Mouchkine, je crois, en gros. Mais c'est parce que c'est quand même... Voilà, ça reste un pôle, quoi. On peut en penser ce qu'on veut, on en pense forcément quelque chose. Et là, il y a quand même une part d'écriture libre, au moins en un premier temps. Alors, évidemment qu'ensuite, on peut dire qu'il y a de la direction qui vient par-dessus. Mais il me semble que ces deux pôles, liberté d'écrire, c'est-à-dire de produire au plateau, c'est pas une liberté... C'est vraiment une liberté plastique. Enfin, est-ce que l'acteur a le droit d'exprimer ce qu'il est, ce qu'il peut être, ou est-ce qu'il doit se conformer à une idée que le metteur en scène a? Voilà. Il me semble qu'il y a ces deux manières d'attraper la question. Et ce que tu dis est complètement vrai. En 20 ans, je crois que c'est une évidence que de dire que le rapport des metteurs en scène aux acteurs ont changé, déjà justement parce que ce mot de metteur en scène n'est pas forcément le terme aussi dominant qu'il l'était, du moins. Il reste bien sûr dominant dans plein de cas, mais il est en tout cas sujet à caution, soumis à débat horizontalisé, on pourrait dire, de plein de manières, les collectifs, mais pas seulement. Il y a de plus en plus d'alliages, d'alliances qui effectivement déportent, on pourrait dire, déplacent la question de la direction et donc, disons-le, du pouvoir, enfin, de décision finalement, c'est de ça dont il s'agit. C'est qui décide, quoi. Quel le final cut. Mais méfions-nous quand même, parce que moi qui ai eu une expérience douloureuse après la disparition de Gabidi, je pensais à lui en venant, beaucoup. Parce que si quelqu'un m'a donné capacité à regarder à peu près un acteur, faire son travail, c'est quand même Didier. Hein, qui d'ailleurs, Didier Gabidi, qui ne pouvait évidemment pas imaginer que je ne sois pas passé par le plateau pour pouvoir regarder les acteurs. Donc il est très clair que dès les premiers temps de l'atelier, il m'a fait travailler. Il m'avait distribué dans Eunone et j'ai réfléchi, j'ai compris beaucoup plus tard que ce n'était pas un choix, que c'était vraiment la question du servant. Eunone, c'est le servant. Et dans la bouche de Didier, c'était quelque chose de très important. Le servant, c'est celui qui porte le plateau, c'est celui qui nourrit le plateau. Donc il n'est pas au service d'eux, ce n'est pas justement une aliénation de la liberté, mais c'est au contraire en le servant, en étant au service de cette voix, la voix de Phèdre, c'est celui qui accouche de la parole théâtrale, finalement, le servant. Et Didier avait cette formule, servant du plateau. Et c'était pour lui hautement libératoire. Ça n'avait rien de... Voilà. Donc oui, Didier Gabidi était effectivement, lui pour le coup, très vertical, c'est sûr. Bien qu'il laissait quand même beaucoup part à l'écriture, on pourrait dire, des acteurs. Mais ce qui est évident, c'est que quand on a continué le travail après sa mort, puisqu'il était en répétition de Don Juan et de son propre texte, sa suite de Don Juan Chimère, on a cru qu'on saurait le faire, justement, qu'on avait tous un petit bout du savoir-faire de Didier, et que voilà, il n'y avait plus qu'à le faire, quoi. Et ça a été un échec fracassant, on peut quand même se le dire aujourd'hui, nous n'y sommes pas arrivés, voilà, cruellement pas et violemment pas. Et parce que je crois quand même qu'il y a quelque chose, alors j'y insiste, c'est comme un troisième terme entre liberté du faire généralisé ou autorité verticale. Je crois quand même beaucoup à l'écosystème qui fait qu'à un moment donné, c'est un artiste qui fait cristalliser, quoi. Quelque chose qui cristallise, que lui seul peut faire cristalliser. J'ai eu la chance de voir travailler deux géants aussi antithétiques, d'ailleurs l'un, je dirais pas qui, disait de l'autre, tant qu'il continuera à travailler dans l'école, moi j'y travaillerai aussi, donc Claude Régis, Mathias Langhoff. Quand on voit travailler ces deux monstres, hein, dans ma bouche c'est évidemment un très grand compliment, on voit à quel point il y a les deux, quoi. C'est ultra directif. Et en même temps, si l'acteur ne se donne pas entièrement, ça n'est pas possible. Enfin, ça me paraît évident qu'à un moment donné, il y a quand même un artiste, c'est quand même quelqu'un qui fait faire, qui fait voir des choses qu'on ne voit pas, voilà, qui rend visible de l'invisible, qui rend audible de non encore audible, et que cette parole-là, elle suppose quand même cette chose qui n'est pas l'acteur. Ça, c'est quand même une chose que je pense qu'il faut se dire. L'acteur, il a besoin de cette part d'altérité. Il ne peut pas faire tout seul. Je pense qu'on ne peut pas du tout lire liberté de l'acteur par autonomie de l'acteur. Je crois qu'il est dans un réseau d'hétéronomie généralisé. Enfin, il y a de l'autre qui le met en route, il y a de l'autre qui le fait travailler. Et cet autre, c'est le texte, cet autre, c'est la lumière, cet autre, c'est effectivement de plus en plus horizontal. Mais je crois qu'il y a toujours de l'autre, quoi. Et que l'acteur autonome, l'acteur qui s'auto-révélerait comme ça, je crois beaucoup. Je pense que l'accouchement, il vient de l'autre, il vient du servant, voilà, ou de la servante. Je m'arrête là.